En Bouches-du-Maine, sur 93,8.
Alors, nous allons retrouver le reportage que nous propose notre confrère Emmanuel Elamegi autour des communautés minoritaires en République démocratique du Congo. Ces minoritaires ont des craintes de ne jamais accéder au pouvoir.
C'est lors de la campagne électorale pour les législatives et les régionales en 2006 que certains membres de communautés minoritaires du territoire de Lusambo ont fait savoir leurs difficultés dans le partage du pouvoir dans la province depuis l'indépendance. Des désignations depuis cette époque par nomination ne tiennent pas compte de l'équilibre géopolitique de la région. Si certaines communautés peuvent se prévaloir d'avoir été représentées, d'autres, en revanche, ne l'ont jamais été. Comme l'explique Antoine Chamba, ressortissant du territoire de Lusambo.
La difficulté que nous rencontrons, c'est que dans le partage du pouvoir, on regarde toujours du côté des ethnies majoritaires, hein, parce qu'en politique, on a d'autres calculs. On mise sur la majorité pour avoir la popularité, pour le cas échéant, être massivement voté. Hein. C'est la principale difficulté, c'est que le pouvoir regarde toujours du côté des tribus majoritaires. Bon, le Mokompoutou étant minoritaire sur le plan provincial, nous sommes oubliés, mais quand bien même nous régorgeons au sein de la communauté, les capacités, nous avons des gens de qualité, nous avons des cerveaux, nous avons beaucoup fait pour produire des intellectuels, mais d'autant plus que nous ne faisons pas majoritairement sur la province, le pouvoir regarde toujours du côté de la majorité.
Conséquent de cet état des choses, depuis la création de la province du Kasaï oriental, aucun ressortissant de communautés minoritaires n'a assumé des charges, ni du gouverneur de province, ni du vice-gouverneur. Autant, aucun n'a assumé les responsabilités de commissaire de district, d'un maire de la ville et encore moins d'un maire adjoint. Honorable Manga Bakakwa Bundu, député provincial.
Pour ce qui concerne les désignations de pouvoir, nous, de la communauté Bakompou, n'ayant pas beaucoup d'hommes politiques, nous ne pouvons jamais espérer aucun pouvoir parce que ceux qui détiennent ce pouvoir-là veulent toujours favoriser les leurs au détriment de nous qui ne sommes pas leurs frères. Lusambo n'a jamais eu de gouverneur, ni de vice-gouverneur, ni de conseil de district.
Face à cette situation, les communautés minoritaires de Lusambo ont développé d'autres mécanismes pour faire entendre leur voix et faire respecter leurs droits de représentation politique. C'est notamment la mise sur pied d'une structure et cadre de concertation afin de canaliser toutes les revendications. Ce n'est pas tout. Il s'agit aussi de la défense des intérêts des communautés par la création de mutualités, comme le confirme un ressortissant de cette partie de la province.
Nous n'avons jamais utilisé la violence dans notre culture. Dans un premier temps, nos aînés avaient compris que pour arriver à s'exprimer sur le plan du pouvoir, il faut encourager la formation de l'élite. Nous avons formé l'élite. Ça fait la première bataille qui est gagnée. Nous avons énormément produit de prêtres, de théologiens, des ingénieurs, des médecins, des sociologues. Dans tous les domaines, en tout cas, nous avons formé. La première bataille est gagnée. La deuxième bataille, nous essayons, avec dans les associations, les appels pour s'exprimer. Mais de ce côté-là aussi, il faut un sponsoring, parce que tous ces intellectuels-là, pour qu'ils s'expriment, il faut bien. Nous sommes en train de nous organiser comme ça, dans les associations, pour préparer des débats avec l'autorité, nous faire représenter dans les associations pour atteindre par le canal d'association des autorités, afin qu'ils puissent entendre notre voix.
Autre voie de sortie, les élections. Les représentants de ces communautés affirment que grâce à l'organisation des élections en 2006, deux députés provinciaux ont été élus. Il reste que par voie de concertation à travers les structures, ces communautés minoritaires sont représentées au gouvernement provincial.
Voilà, c'était plutôt Julien Nyamweni qui nous proposait ce reportage et vous avez eu à vous faire une idée très très précise au travers de ce reportage qu'il nous a proposé autour de la question sur les communautés minoritaires en République démocratique du Congo qui ont bien entendu des craintes de ne jamais accéder au pouvoir. Nous avons dans ce studio pour en parler Monsieur l'abbé Ambroise Moutchebe, secrétaire à la commission de la Conférence épiscopale nationale du Congo, chargé de l'apostolat des laïcs et des intellectuels. Israël. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour.
Alors, le partage inéquitable du pouvoir peut être à la source des violences.
Oui, le partage inéquitable du pouvoir peut être à la source des violences, comme vous l'avez dit. Et le reportage que je viens d'entendre est très éloquent. Il nous permet vraiment d'analyser la situation parce qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire. Mais la lutte pour le pouvoir amène souvent à des violences et notre pays est bien placé pour le savoir.
Oui, ben, dans bien des cas, ce sont des groupes minoritaires qui n'ont pas l'occasion d'accéder au pouvoir facilement.
Mais si je me base sur votre reportage, on peut l'affirmer, mais on peut en réfléchissant que ce n'est pas toujours le cas. Il suffit de réformer la société. Vous savez qu'une personne non formée est non seulement en danger, mais aussi un danger. Parce que la violence est une arme dangereuse qui finit par se retourner contre celui qui la porte. Nous devons entrer dans une société de compétition par la compétence. Donc ce n'est pas son appartenance à une tribu, à une ethnie ou quoi qui nous fait accéder au pouvoir. C'est par le savoir, par l'information, par la formation, par la connaissance.
Oui, mais donc ils disent que dans les sociétés africaines, l'injustice observée dans le monde politique serait due, si je peux utiliser les termes, à la non-moralisation des peuples.
Oui, et c'est très important d'avoir des principes moraux dans les sociétés. Et quand on distribue des postes en fonction de son appartenance ethnique ou en fonction de son appartenance tribale ou villageoise, ça prouve qu'on n'est pas justement dans les principes moraux qui sont les principes d'égalité, de justice, de liberté et de vérité. Si nous voulons effectivement éviter certaines violences, nous devons arriver à respecter ces principes-là.
Oui, ben, parlons un peu de ce groupe, parce que le groupe minoritaire ou une communauté minoritaire, c'est quoi au juste?
Bon, une communauté minoritaire, c'est une communauté, bon, pour dire simplement des choses, qui numériquement est petite par rapport à une autre considérée comme plus grande numériquement, c'est-à-dire il y a moi, de gens reconnus de cette communauté-là que dans d'autres communautés. Mais dans certains, bon, ça peut être du point de vue de la religion, du point de vue de la culture, ou du point de vue de la race, plusieurs critères peuvent être pris en compte.
Alors comment peut-on parler des minorités en République démocratique du Congo alors que le pays dénombre plus de 480 ethnies?
Oui, là c'est vraiment compliqué, parce que déjà, le nombre des ethnies, certains disent 400, d'autres disent moins, mais si on voit cela d'une manière relative, je pense que toutes les ethnies sont minoritaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres qui soient plus grandes que les autres. Voilà pourquoi il faut développer l'accessibilité aux fonctions, l'accessibilité à des postes, par la compétence, hein, par la compétence, sinon nous allons toujours reculer. Et d'ailleurs, le reportage m'a fait tiquer quand j'ai entendu, ici nous n'avons pas de poste, on prend toujours les gens de son coin, pourtant nous avons formé, nous avons fait ceci. Mais ça, c'est révélateur. Ça veut dire quoi? Lorsque nous regardons même nos campagnes électorales, hein, on n'a vraiment pas un projet de société. Hein. On parle, on dit on va faire ceci, on va faire cela, mais quelle est ma vision? Qu'est-ce que je propose pour l'avenir? Il n'y en a pas. Alors, puisqu'on est, bon, Jésus n'était pas là. Si Jésus n'était pas là, tous les baptêtes ont voté pour moi, même si j'ai une tête vide. Alors que dans les pays à compétition intellectuelle, vous allez en France par exemple, quelqu'un peut être de Marseille et être élu président de la République par les Parisiens. C'est comme ça parce que là, on regarde tout ce qui se passe au niveau des idées et non au niveau de l'appartenance ethnique ou quoi. Parce que sinon, ça cause une certaine prison de France aujourd'hui.
Alors, pourquoi les communautés minoritaires se sont-elles discriminées et menacées alors qu'elles vivent dans un système démocratique?
Justement, c'est ce qui m'étonne, c'est que la démocratie ne marche pas encore très bien. Hein. La démocratie ne marche pas encore très bien. Mais il faut aussi faire la différence entre le sentiment d'exclusion et l'exclusion réelle. Parce que l'être humain a ceci qu'il se projette sur les autres. Et bon, il vit souvent à la défensive. Et par conséquent, ils se sont persécutés alors qu'ils n'ont rien. Il faut s'y faire. Mais il y a aussi des cas où certaines communautés, effectivement, sont discriminées et stigmatisées. entre le sentiment de, d'exclusion et l'exclusion réelle.
Je ne comprends pas bien, donc le groupe minoritaire n'a pas raison de se victimiser.
Non, surtout pas ça. Parce qu'à partir du moment où vous vous enfoncez dans la victimisation, vous ne savez plus sortir et vous restez dans une espèce de spirale où tout ce qu'on fait, vous le pensez dirigé contre vous, même quand c'est pour votre bien. Donc il faut sortir justement de cette victimisation-là. Et là, l'école est un lieu, un creuset très important. C'est à l'école où les gens apprennent à se connaître mieux, connaître soi-même, connaître l'autre, et ils sont là, pas en fonction de leur ethnie ou de leur appartenance, mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils apprennent à se connaître d'après leurs connaissances, leurs compétences. Et c'est pourquoi il faut beaucoup d'importance à l'école.
Et le recours à la violence est-il une bonne manière pour revendiquer ou faire entendre sa voix?
Dans l'absolu, non, c'est pas une bonne manière. Parfois, c'est les gens sont coincés, hein, ils continuent plus d'autres solutions. C'est pourquoi il ne faut jamais museler les gens. Il faut les laisser parler. Il faut laisser parler, il faut laisser s'exprimer. Parce que quand quelqu'un est coincé, qu'il ne sait plus rien faire d'autre, il ne lui reste plus que cela. Mais je ne dis pas qu'il faut arriver à la violence. Il faut arriver à la violence. C'est pourquoi la démocratie est une bonne chose, parce qu'on peut parler, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein, on se bat par la parole, par le mot, avec le mot, le verbe. C'est très important.
Mais de quoi, quand on parle, quand on béton, on vous écoute difficilement, ce qui fait que les gens passent à la vitesse supérieure.
Oui, ça c'est... Excuse-moi. Bon, on vous écoute difficilement, ça veut dire qu'on ne se parle pas, on ne dialogue pas, il y a un dialogue de sourds, c'est ça, donc on ne s'écoute pas. Mais le débat veut qu'on s'écoute, un débat, c'est ça, le débat. Donc l'autre parle, vous écoutez ses arguments et vous avancez les autres, c'est ça le débat. Parce que vous ne vous écoutez plus, il n'y a pas de débat, il y a monologue.
Il y a encore faut-il voir cette culture des débats, cette culture des
débats. Mais ça, c'est culture, mais ça s'apprend à l'école.
Comment
Tout s'apprend. Oui, tout s'apprend à l'école. Vous posez des questions au professeur, il répond, il vous pose des questions, vous discutez entre vous. Il y a des sujets de dissertation, des sujets de réflexion, vous pouvez débattre sur une question, tout s'apprend.
Mais alors, pour le cas d'espèce, quel peut être le cadre des concertations qui peut mettre ceux-là qui s'estiment minoritaires en face des majorités?
Non, mais le développement des partis politiques dans une démocratie apporte un autre élément à cette histoire. Parce que dans les partis politiques, ce ne sont pas des partis ethniques ou bien des partis tribaux. Les partis politiques, ce sont des gens qui viennent de tous les horizons et parce qu'ils partagent une vision. Ils ont une même vision, ils se mettent ensemble, ils disent, nous voulons une telle société. Mais là, vous trouvez tous ceux qui... Mais si vous restez, vous réclamez en fonction de votre appartenance... Là, il y a quelque chose qui cloche, c'est que vous-même non plus, vous n'êtes pas à l'aise dans un autre système. Il est très difficile de sortir du système tribal d'appartenance ethnique ou d'appartenance. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Nous sommes prisonniers quelque part, nous tous, hein, on est un peu prisonniers.
Je vais juste une petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui, nous remarquons même les individus congolais éprouvent d'énormes difficultés pour se mettre ensemble et se parler et réfléchir dans ces sens-là.
Oui, vous remarquez, c'est... La politique est aussi, c'est aussi un combat qui respecte l'adversaire. Oui, mais nous avons quand même de temps en temps réussi à mettre les acteurs politiques ensemble. Vous savez que nous venons de former le deuxième atelier des acteurs politiques catholiques. On a retrouvé toutes les tendances confondues. J'ai dit, même les gens de l'UDP, c'était là. Donc, c'était un succès d'exploit.
Hein? Quel a été le temps de fond, qu'est-ce que vous allez donner comme matière à ces intellectuels? Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons une crise de leadership.
Oui, mais vous savez, la société forme ses leaders. Les leaders sont à l'image de la société, souvent. Parce que plus ils veulent s'élever, plus nous le tirons vers le bas. Nous voulons plutôt niveler par le bas, plutôt que de laisser les gens le tirer par le haut. Je prends un simple exemple qu'on a donné. Souvent, vous avez des gens, maintenant, on a nommé des ministres, tout ça, qui sont nommés pour la première fois, certains n'avaient rien avant d'être nommés ministres. Et une fois qu'ils sont là, qu'est-ce que nous, membres des familles, amis, nous disons? Vous êtes entré locataire, il ne faut pas en sortir locataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès que vous êtes là, la première chose à faire, c'est de vous. Hein? Et nous sommes les premiers enclaves, nous leur demandons de se servir. Donc, il faut reconnaître que nous avons des dirigeants que nous méritons. c'est tout.
Et finalement, on se rend compte que nos frères à nous ont rejoint le camp de majorité, et puis bon, finalement, ils sont dans la minorité.
Oui, mais
c'est nous-mêmes qui
mais, nous avons. Je n'allais pas me dire qu'au Congo, les risques sont plus nombreux, non. Non, non. Les risques sont minoritaires.
Hein? Les risques sont minoritaires. Ça a été arrêté du tout,
mais c'est la BSI. Mais ça a sorti sur la rue. Allez voir. Non, sortez seulement. Ouais. Quelques minutes ici, déjà le studio, jetez un coup d'œil, vous verrez que la majorité de la population croupit dans la misère. Ça, c'est pas un secret. Même le Premier ministre, le président, tout le monde le sait. Ça, c'est, hein, c'est un secret des polichinelles. C'est cool. Hein, tout le monde sait que la majorité ici est pauvre et même dans la misère. Et c'est pourquoi nous devons travailler pour la sortir.
Ben alors, on va d'abord suivre la conclusion de Marcel Tanko et puis on va revenir pour suivre cet entretien.
Un groupe minoritaire est un groupe formé d'un nombre très réduit de personnes appartenant à une religion, une langue, statut social ou une ethnie unique qui diffère de la majorité. Il arrive que des leaders exploitent délibérément les traits culturels, linguistiques ou religieux de ces groupes pour exclure ces groupes de classe politique ou du pouvoir économique. Ils le font pour obtenir plus de pouvoir ou pour s'assurer un accès exclusif aux ressources naturelles et porteraient les groupes minoritaires comme dangereux pour la survie de leur groupe et les accusent pour les problèmes que leur propre groupe traverse. Mais attention, tous les groupes minoritaires ne sont pas exclus et déshumanisés. La RDC compte plus de 400 groupes ethniques, dont beaucoup pourraient être considérés comme minoritaires, mais pourtant vivent comme tous les autres groupes. En RDC, les groupes sont nombreux, mais ce n'est pas pour ça qu'ils doivent tous prétendre être discriminés et de ce fait se faire entendre par les armes, sans quoi ce serait la guerre totale et nous pourrions tous mourir. Au lieu de recourir à la violence, nous pourrions essayer d'encourager les groupes minoritaires à dénoncer plutôt tous les actes de discrimination fondés sur la nationalité ou l'ethnie. Pour cela, tentons simplement de nous rassembler en groupe de 5 ou 10 et peut-être après plus. En agissant ensemble, on se sent plus fort et on a le sentiment qu'on n'a plus de pouvoir pour atteindre nos objectifs. On se sent plus sécurisé face à d'éventuelles répercussions. Dans ce type de groupe, il est important d'inclure des membres des autres groupes pour montrer à toute la communauté que les problèmes des minorités ne sont pas leurs problèmes seulement, mais aussi celui de nous tous, y compris de nos élus. En outre, un groupe mixte sera plus persuasif qu'un groupe qui plaide seul pour ses propres droits. Alors, ne soyons pas passifs ni fatalistes et mobilisons-nous tous pour le bien-être et souvenons-nous de ce proverbe arabe qui dit « Le monde est du côté de celui qui est debout ».
Le monde est du côté de celui qui est debout. Et nous pensons que aujourd'hui, à travers de ces colloques que vous organisez, les intellectuels seront réellement debout, M. Labbé.
Oui, mais maintenant, mettons-nous d'accord sur ce être debout. Qu'est-ce que c'est être vraiment debout? Moi, je pense que être debout aujourd'hui, c'est, je reviens sur ce que j'ai dit, hein, c'est être compétent. C'est la compétence. Nous sommes dans un monde de compétitivité. Nous devons cesser de penser en termes d'appartenance ethnique ou tribale. Ce qui fait que nous restons dans la logique de mon frère est là, ma soeur est là, mon oncle est là, et c'est bon. Maintenant, il faut que nous entrions dans la logique de la compétence, puisque si nous ne sommes pas dans cette logique-là, nous ne développerons jamais notre pays.
Alors, quand nous suivons nos différentes chaînes de télévision, on remarque des revendications par-ci, des revendications par-là, des groupes qui s'estiment minoritaires, notamment les BVV, les orphelins, les personnes invalides, et tant d'autres. J'ai bien aussi et les femmes, et les femmes aussi. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que les élus du peuple peuvent-ils pouvoir promouvoir les droits des communautés dites minoritaires que je viens de citer là?
Oui, vous avez cité les faibles en fait. Et toute société qui veut rester une société humaine, humanisée, humanisante, doit s'occuper des faibles. Les faibles, parce qu'ils sont faibles. Et il faut leur donner aussi la chance de réussir dans la vie, de faire quelque chose dans la vie. Moi, je pense que c'est très important. Mais, ceci étant dit, quand vous parlez de minorité et vous me citez les malades, je pense que les malades sont toujours minoritaires. Hein. La situation normale, c'est que le bien portant soit plus nombreux. Et moi, j'ai cru entendre dans minorité ici, vous parliez, on parlait plutôt de des pays minoritaires ou bien. Bon, on peut prendre les femmes, bien que moi je ne sois pas d'accord que les femmes soient minoritaires, sauf qu'elles sont invisibles dans certaines fonctions, mais elles ne sont pas si minoritaires que cela. Et je pense, et pour terminer, qu'effectivement la société doit s'occuper de faire. Vous m'avez posé la question sur les élus du peuple, mais les élus du peuple doivent justement voter des lois pour que, pour ne pas stigmatiser, pour ne pas mettre sur le banc de la société ceux qui sont déjà défavorisés, entre guillemets, par la nature.
Alors, pourquoi est-il également de l'intérêt des groupes majoritaires d'assurer le respect des droits des groupes minoritaires ?
Oui, il est de l'intérêt de... parce que si on ne le fait pas, nous arrivons justement à ce que nous avons appelé la violence. Et alors là, c'est vraiment... la société creuse sa propre tombe. Si on ne fait pas, il faut... vous n'allez pas dire, j'ai le corps, et mon doigt ici, il souffre, je ne peux pas m'en occuper parce qu'il est petit. Si vous vous occupez de ce doigt, vous vous occupez de tout le corps. C'est ça l'important.
Nous allons peut-être nous arrêter là. Ouais. Nous vous souhaitons bonne continuation dans votre colloque. Et ça prend 5 ans, monsieur Allais.
Oui, mais l'atelier a déjà eu lieu. Hein, il a commencé. Nous avions fait ça du 28 au 30 mars. Et puis nous avons eu un jour, le 13 avril. On entrevoit quelque chose d'ici le mois de juin, si le temps le permet.
Monsieur l'abbé Ambroise de Montchébé, nous rappelons que vous êtes secrétaire à la commission de la Conférence épiscopale nationale du Congo, chargé de l'apostolat des laïcs de l'ETFE. Merci d'avoir été de notre surtout dans cette chronique la bénévolité. On vous retrouve très prochainement.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Quoi de plus long